m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache. Oui. Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Amis de la table et de la fourchette, bonjour. Un petit tour au marché, nos dossiers pour mieux comprendre ce que nous mangeons. On va parler du pois chiche et du caramel aujourd'hui. Et puis un invité bon vivant, eh bien voilà le menu. Voici mes bons vivants du jour. Depuis que les restaurants sont fermés, elle conjugue le verbe cliquer et collecter en un seul mot à tous les temps. C'est Charlotte Langrand du Journal du Dimanche. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bonjour Olivier.
Ravi de vous retrouver autour de cette table, Charlotte.
Merci, moi aussi.
Il préfère plutôt se casser une jambe que de renverser une bouteille de vin. Rédacteur en chef adjoint à la Revue du Vin de France, c'est Olivier Pouls qui est des nôtres. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis, c'est vrai que vous avez raison, une jambe ça se répare, mais une bouteille pas.
C'est ce que disait mon grand-père, quand il voyait une bouteille renversée, ça le mettait en rogne. Sur les coups de midi, nous allons recevoir un indocile heureux, c'est le parrain de l'émission, figurez-vous. Benabar va se mettre à table et je peux vous dire, faites-nous confiance, que c'est un très bon vivant. Allez en route les amis. Alors avant de prendre l'air frais sur le marché, notre rituel à table, quel est votre goût de la semaine? Posez-vous la question, tiens, à la maison, en voiture, je vous pose la question aussi à vous Charlotte.
Alors moi j'ai fait un détour au marché des enfants rouges, rue de Bretagne à Paris, au comptoir des enfants du marché. La carte globale fait très envie, hein, parce qu'avec quasiment chaque plat, il y a une crème, un jus, une sauce, une mayonnaise.
Très belle adresse.
Voilà, alors j'en prends un au hasard, parce que je l'ai goûté et que vraiment ça faisait plaisir. C'est une entrée, des sardines entières en tempura, avec, ce qui fait un peu toute la différence, une mayonnaise au gingembre.
Ah mais c'est magnifique parce qu'il travaille effectivement de beaux produits de saison. C'est une carte cuisinée. Moi, j'ai commandé cette semaine un riz d'agneau avec les premières asperges vertes, effectivement, avec des jus, avec des sauces qui sont généreuses. Voilà.
Et il sait, avec ses bons produits, juste twister un tout petit peu comme il faut avec ses petites crèmes ou mayonnaise. C'est tout ce qu'il faut.
Les enfants du marché. Votre goût de la semaine, cher
Olivier.
Vous mettez
en appétit, les amis. Mais moi, c'est un goût un peu triste, même très triste. Le goût du pain perdu, malheureusement, et la disparition qu'on a apprise cette semaine de Thierry Delabre, qui était un grand monsieur de la boulangerie. Il n'était pas boulanger à l'origine. Ça lui était venu comme passion sur le tard, comme on dit. Il avait énormément travaillé sur tous les phénomènes de levure, de fermentation.
Ouais. Du levain naturel.
Du levain naturel, des farines anciennes. Panadero clandestino. C'était son petit chez lui où il faisait des pains, notamment pour certains grands chefs. Et il nous a quittés cette semaine et c'était quelqu'un de très bien et qui a énormément fait pour le pain.
Oui, on en parlait beaucoup ici, donc on pense bien sûr à sa famille et à ses enfants. Et mon goût de la semaine, moi, c'est celui d'une recette que j'ai faite avec les fonds de frigo, on va dire. Il me restait du brocoli, on m'a donné des noix. J'avais de la sauce soja qu'on m'avait donnée avec une livraison comme ça de petits sushis. Voilà, de la sauce soja, voilà. Les petits paquets qu'on a, il ne faut pas jeter, de l'ail. Donc j'ai fait un condiment noix, soja, ail pour mettre sur des brocolis que j'ai pochés 10 minutes à peine dans de l'eau bouillante salée et ça marche très bien. C'est une belle garniture ou alors si
c'est
on est végétarien.
Votre truc, hein.
Oui, c'est assez régime. Mais le professeur Kayat qui était là il y a 15 jours nous a dit il faut manger du brocoli, vous vous souvenez?
Ouais.
Vous en avez mangé depuis?
Mais j'ai oublié, finalement.
Voilà, moi j'écoute le professeur Kayat. Allez, c'est l'heure d'aller au marché, direction le sud avec Frédéric Michel, notre correspondant dans la région. Une région confinée le week-end, vous savez. Alors heureusement, les commerces dits essentiels restent un lieu de convivialité et de partage. Rendez-vous justement sur le marché de Moinsartou.
Alors, clémentine et pommes de terre.
Par les temps qui courent, comme on dit, ça fait vraiment du bien.
C'est une façon d'avoir un minimum de vie sociale presque, hein, puisqu'il ne nous reste plus que ça. Dans les grandes surfaces, c'est infernal. Et quand on a la chance d'avoir des horaires qui permettent de venir au marché, il faut y aller.
Qu'est-ce que vous avez dans votre panier?
Pommes, ail, kiwi, poireaux.
Donnez-moi un brocoli aussi.
Ça reste quand même encore un plaisir. Mais parce qu'il fait beau, hein.
On est à l'air libre, les gens se frôlent pas.
On parle de quoi, là, en ce moment?
Du Covid.
Du confinement, du ras-le-bol général.
Non, moi, je parle pas du Covid au marché. Mais je fais attention à bien mettre mon masque, par contre.
On sent qu'ils ont besoin de sortir, de s'aérer. Il n'y a pas des gros attroupements. Hein. Ils se rencontrent sur le marché, ils tchatchent un peu, ils sont contents.
Les Français sont formidables. Franchement, il y a une résilience, ils sont courageux. On en a marre. Je suis comme la dame, on en a ras-le-bol. Et en plus, entre guillemets, nous, ici à la capitale, on n'est pas encore confinés le week-end. Mais quand on est confinés le week-end, on a vraiment le sentiment de revenir un an en arrière, là.
Oui, puis le marché reste une des dernières soupapes où on peut aller se prendre l'air, se balader, voir des gens, échanger un petit peu, et voilà. Bon.
Il faut saluer les commerçants qui sont quand même toujours de bonne humeur, ils se lèvent tôt, ils sont là avec leurs produits, c'est quand même un contexte compliqué, et on discute avec eux, c'est quand même...
Et les gens du Nord vivent la même chose aussi.
Oui, parce qu'à Dunkerque, où ils sont aussi confinés le week-end, les marchés restent ouverts, et en plus il y a les beaux jours qui arrivent.
C'est ça, on sort de l'hiver, on va enfin quitter les légumes racines pour retrouver les premiers légumes feuilles,
les
petits
asperges.
Légumes primeurs d'ici un mois, donc ça y est, ça sent bon.
On ça change sur les étals, c'est vraiment sympa. Ah ouais.
Voilà, donc en tout cas, quoi qu'il en coûte, comme on dit, faites le marché, que vous soyez confiné ou pas confiné, mais c'est vrai que c'est important de faire ses courses et de manger des produits de saison, on le dira jamais assez. Allez, petite devinette, tiens. Je suis dur ou mou, brun ou translucide, j'existe en sucré et en salé, je suis...
Ben, le caramel.
Et ben voilà, on en croque juste après ça. Attention au plombage, si vous en avez.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Qu'il soit dur ou mou, qu'il colle à la dent ou pas, le caramel est un doudou de notre enfance que nous aimons retrouver à l'âge adulte. Alors on va en croquer pour cette petite douceur aujourd'hui avec Charlotte Langrand et Olivier Pouls. Tiens Charlotte et Olivier, votre souvenir d'enfance avec le caramel, ça ressemble à quoi ?
C'est évidemment du caramel un peu mou au beurre salé et puis... Puis je ne sais pas si on peut tous confesser qu'on a peut-être quand même, on s'est tous cassé les dents sur du carambar ou...
Moi, le caramel de l'enfance, c'est le carambar, vraiment.
Finalement, c'est ça.
Qui est un peu dur au début, effectivement, qui peut se ramollir un petit peu, mais j'en ai laissé quelques-uns des plombages.
Oui, la hantise du dentiste.
Ouais, moi, pas trop. Moi, j'aimais le caramel, mais en sauce, la sauce caramel sur les œufs, par exemple, sur
un flan
avec une sauce caramel par-dessus ou dans le riolet, enfin sur le riolet, un beau caramel au beurre salé dans le riolet, c'est d'une
plus liquide.
Plus liquide. Moi, j'aime pas trop quand ça colle aux dents. Oui. Ça. Alors, il faut aller chercher les boules.
Vous voulez pas prendre de risque,
en fait.
On en mange longtemps, sinon.
C'est votre côté fluide.
Oui, voilà.
Alors, de temps en temps, le dur croise le mou. C'est le cas du Salvatore, une spécialité de la maison Fouquet. C'est un confiseur chocolatier parisien. Ce bonbon dont je vous parle, le Salvatore, va fêter ses 80 ans. Alors, Alice Fosse a plongé le micro dans le chaudron en cuivre de Catherine Chambeau-Vaz, qui est directrice de la maison Fouquet dans le 9e arrondissement de Paris. Étudions de plus près ce caramel.
Vous êtes ici dans les ateliers où nous fabriquons toutes nos confiseries. Le Salvatore, c'est un caramel mou qu'on fabrique dans nos bassines de cuivre et ensuite qu'on trempe dans un caramel plus dur. Vous avez une double consistance. Quand vous croquez dedans, vous avez le sucre un peu dur au-dessus et le moelleux du caramel à l'intérieur. Le caramel mou est très peu cuit pour justement avoir cette consistance exceptionnelle. C'est tout simple, c'est du sucre, du beurre, du lait. On regarde au boulet, c'est-à-dire c'est à l'ancienne la façon dont il est cuit.
Là, je vois qu'il n'est pas encore assez cuit, c'est encore trop mou.
Une fois qu'il est cuit, on le trempe dans le caramel dur.
Le caramel dur, c'est simplement du sucre et de l'eau.
Exactement. Il faut être très vigilant sur la cuisson, qui est environ portée à 150 degrés, à l'intérieur très mou et à l'extérieur dur. D'ailleurs, je vous propose de goûter la différence de texture.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y a comme une deuxième couche à l'intérieur.
Oui, c'est un petit peu ça, c'est exactement ça. Ce n'est pas Thérèse, c'était Catherine Chambeau-Vaz de la maison Fouquet avec Alice Fosse. Alors Charlotte, vous en avez croqué pendant le petit reportage.
Oui, désolée, excusez-moi, j'en ai un peu plein la bouche.
Vous avez bien fait, on est là pour ça.
Mais le visuel est étonnant parce qu'on croit que quand on va le prendre en main, on dirait qu'il a coulé. En fait, on dirait qu'il est vraiment très liquide. Il est dur et on le croque, il est vraiment croustillant. Il y a vraiment un truc sur les textures étonnant.
Il est joueur, ce caramel, effectivement. Et quand on le regarde, là, moi je l'ai devant moi, vous l'entendez ?
Ouais, voilà.
Ah oui, tiens bien.
Il est dur.
Vous avez remarqué qu'il fait étrangement penser à un autre caramel qui s'appelle le Négus de Nevers. C'est son frère, en fait, c'est la même chose.
C'est l'inspiration, en fait, c'est ça.
Qui est une spécialité de la ville de Nevers, là, pour le coup. Mais comme ici, on est à Paris, on n'a pas le droit de l'appeler comme ça.
On dirait un bijou, un petit peu, c'est vrai qu'il est joli. Alors, on parlait de la cuisson au boulet dans le sujet. Vous savez ce que ça veut dire, la cuisson au boulet, quand on parle d'un caramel ?
On met un boulet dans le...
on prend avec les mains humides un petit peu de caramel et on le roule comme ça entre les doigts. Et si la pâte devient malléable, c'est que la cuisson est bonne, parce que tout le problème et toute la complexité du caramel, c'est ça, c'est la cuisson. On le voit bien à la maison quand on veut faire un caramel. On va en parler dans un instant et c'est assez technique et assez précis. Alors vous le disiez, on en trouve du côté de Nevers, du caramel.
En petit bonbon, en spécialité.
En petit bonbon. On en trouve partout en France, Charlotte, des spécialités
base
de caramel.
Est-ce que vous connaissez la niniche de Quiberon, exemple ? Donc une petite sucette un peu ronde et aussi en longueur. Ouais. Il y a aussi le canouga de Saint-Jean-de-Luz qui est au chocolat. Vous avez évidemment le caramel d'Isigny. La Chute du Nord, elle est parfumée au café. Et la babelute, alors c'est plutôt un caramel allongé, et là c'est au miel ou à la vergeoise,
vous connaissez. Je connais pas ça.
Ouais, ça je connais, ouais, la babelute.
La babelute.
Ouais, la babelute.
Voilà. Ouais. Alors oui, on parlait de la difficulté de faire un caramel à la maison, il y a plusieurs techniques. Démarrage à sec, comme on dit, c'est-à-dire dans une casserole bien chaude, et on met juste du sucre, ou alors avec un petit peu d'eau. Quoi qu'il en
c'est
soit.
C'est pas nécessaire de mettre de l'eau parce qu'en fait, pour faire du caramel, il faut que l'eau s'évapore.
Oui,
donc
vrai.
En rajouter, ça le fait que
ralentir le
processus. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est être très, très, très vigilant parce que ça part, tac, en une fraction de seconde. Il se passe rien. Et dès que la température du sucre commence à atteindre le point de caramélisation, en quelques secondes, le sucre se transforme en caramel et c'est là qu'il faut être très vigilant.
Faut pas le lâcher des yeux, vous avez raison, Olivier. Et puis, petit truc, faut pas le remuer avec une cuillère en bois. On laisse fondre, on regarde la température et c'est seulement quand c'est uniforme et bien liquide que là on peut bouger la casserole, mais surtout pas de cuillère en bois avant.
C'est pour ça.
Et c'est à ce moment-là qu'on peut rajouter le petit morceau de beurre
ou de
salé.
Et de la crème chaude.
Ou de la crème.
Et les deux.
Ou du lait, ou les deux.
Alors c'est vrai que sur le groupe Facebook des Bons Vivants, le caramel vous rend dingue, hein, chers auditeurs. Vous le préférez en bonbon à 45%, dans un gâteau à 38%, selon notre sondage, autre à 13%, et en topping aussi, 4%. C'est vrai, des petits morceaux de caramel sur un riz au lait ou sur un petit dessert, ça marche bien. Allez, on va parler des restaurants dans un instant. Ils sont toujours fermés, mais figurez-vous qu'on commence à voir le bout du tunnel. Quand pourront-ils rouvrir? Quelles sont les mesures imaginées pour reprendre du service? Eh bien, on a un joli dossier d'actualité à ce propos. Et le camarade Jean-Luc Petit-Renaud sera de la partie. Vous pensez bien, quand on parle des restos, il pointe le bout de sa fraise. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, avant notre dossier du jour consacré aux pois chiches, on va se pencher sur l'actualité de nos restaurants. Certains s'en sortent avec la vente à emporter, d'autres attendent la reprise avec impatience. On a parlé d'avril pour la réouverture, ça s'éloigne. Maintenant, on parle de mi-mai, c'est la date qui paraîtrait officielle, en tout cas qui circule. On commence à avoir de la lumière au bout du tunnel. Le Québec, Israël, l'Espagne, la Norvège ont déjà rouvert. Alors, on en parle ici régulièrement. Il existe plusieurs façons d'envisager la réouverture des restaurants. Olivier et Charlotte, on parle beaucoup du fait d'ouvrir uniquement le midi pour commencer, Charlotte.
Oui, c'est ça. Il y a d'ailleurs eu une tribune d'une quarantaine de députés dans le JDD récemment. Ils demandaient au Premier ministre d'étudier la réouverture des restaurants au déjeuner pour ceux qui en font la demande et pour celles et ceux qui n'ont pas de cantine d'entreprise pour qu'ils puissent bénéficier d'un lieu et d'un temps adapté pour la pause du midi, évidemment avec les procédures sanitaires adéquates.
Oui, des tables à petite capacité, une distance entre chaque table.
Tout ce qu'on a déjà vu d'ailleurs entre les deux confinements. La réponse du gouvernement le 5 mars, elle a été un petit peu définitive. C'est pas adapté au moment où on reconfine les départements le week-end.
C'est ça. Mais voilà. On peut pas reconfiner et rouvrir les restaurants, même avec la distance.
Non, et puis il y a un problème d'ouverture le midi. C'est-à-dire que pour beaucoup de restaurants, faire uniquement des services le midi et encore avec des jauges très basses, ça ne suffit pas à rentrer suffisamment d'argent pour fonctionner et pour couvrir les frais. Donc, il faut que les aides puissent continuer également à leur maintenir la tête hors de l'eau. C'était évidemment extrêmement compliqué, mais on sent bien qu'il y a une question économique derrière tout ça. L'Espagne a ouvert ses restaurants parce qu'ils l'ont reconnu. Économiquement, l'État ne peut plus continuer à les supporter. C'est un peu le cas d'Italie et d'autres pays.
Mais l'Italie a refermé.
C'est ça. L'Italie fait du stop and go.
Le virus a recirculé, donc on a refermé. C'est ce qu'on appelait l'effet parasol avec les terrasses, les parasols. Non, c'est très compliqué. Alors, comment rouvrir? C'est la grande question. La plupart des restaurateurs veulent revenir au protocole d'octobre avant le deuxième confinement. Des petites tablées, une jauge de remplissage, une distanciation entre les tables. Et d'autres vont encore plus loin en mettant encore plus de normes sanitaires, si je puis dire, dans les propositions.
Presque ultra-hygiéniste, on peut dire, puisque ce sont des groupes de travail plutôt de scientifiques qui réfléchissent à des choses, des mesures vraiment technologiques sur comment est-ce qu'on peut aider la désinfection partout dans le restaurant.
Les poignées de porte, les menus.
Les poignées de porte, les toilettes. Alors, j'ai vu un truc aussi énorme, un tunnel de désinfection UV qui permettrait un traitement quasi instantané de chaque assiette dressée avant d'être servie à table. Bon, voilà, ça va assez loin. Est-ce qu'on en a vraiment envie.
C'est un restaurant alsacien qui a étudié le sujet.
Oui, c'est ça, le restaurant étoilé La Maison des Têtes à Colmar, d'Éric et Marilyn Girardin.
Je vous dire un truc, j'y crois pas tellement. Mais j'y crois pas parce que le restaurant, c'est quoi? C'est un lieu de convivialité. On ne peut pas empêcher les gens, quand ils sont au restaurant, qu'on a commencé à boire un petit coup, à se détendre, à avoir les plats qui arrivent, à se laisser un peu
c'est
aller.
C'est pas un bloc opératoire.
Et non, c'est exactement, c'est pas une clinique. Donc mettre des protocoles comme ça au restaurant, on l'a vu d'ailleurs d'ailleurs lors de la première réouverture entre guillemets entre les deux confinements, ça ne marche pas. Vous allez vous adresser à votre voisin, vous allez vous lever, vous allez aux toilettes. C'est comme ça.
Mais cette ambiance-là, si je puis dire, on l'a déjà en temps normal, je trouve, dans des restaurants étoilés un peu chichiteux, où les tables sont très espacées, où ça chuchote, où ça murmure. C'est pas là où on est le plus heureux, ouais,
mais
même
c'est
si
pas
on
la majorité des restaurants.
C'est, pas, c'est pas la majorité.
Non, mais là, ça fait vraiment qu'on est enfermé dans des bulles. Vous vous souvenez, ce designer qui avait imaginé des bulles qui descendraient autour de chaque convive au restaurant, du plafond. C'est vrai qu'on. Est-ce que vraiment on a envie de se parler avec cette distance-là? Même, c'est quand même pas pour les mêmes raisons que dans un restaurant étoilé.
Une chose est sûre, on a tous envie de retourner au restaurant, les chefs ont envie de rouvrir, de nombreux clients ont envie de se mettre à table. Et parmi eux, tiens, un ami de la fourchette que vous connaissez bien, c'est le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Et figurez-vous qu'il se croit déjà au restaurant, il en rêve, n'est-ce pas tonton Jean-Luc ?
Oh là là, alors il y a quelques nuits, figurez-vous, j'ai rêvé finalement que les restaurants étaient ouverts. Moi je me suis lancé une invitation pour moi, je me suis dit « Jean-Luc, veux-tu passer à table à l'heure du déjeuner, ça te fait plaisir ?» Je me suis dirigé, mais vraiment en avance, parce que j'avais envie de voir le restaurant qui prend sa place. On aperçoit le personnel à l'intérieur, on calcule pile la place du couteau, on regarde s'il n'y a pas de traces sur le verre à vin blanc, sur la coupe de champagne. On est assis, moi solitaire, à ma table, lissant la nappe de coton avec mes deux mains bien à plat, comme ça, prenant position en fait. Je suis un peu comme un tireur d'élite, je vais dégainer dans quelques instants. Je remplacerai simplement le gel hydroalcoolique par un verre d'Armagnac, un verre, carrément, je mettrai sur mes mains, comme ça. Je dirai à la cuisine, prenez votre temps, personne n'est pressé, ni le client, ni vous-même. Ne regardez pas l'horloge, tant pis si le soufflet au fromage redescend et baisse la tête avec la casquette sur l'oreille. On s'en fiche et on se regardera tous, on se saluera comme ça d'un petit geste de la main et on terminera dans une sorte de baignoire de fumée de Havane. Et je me roulerai dans les volutes de Havane. Oh, bon, je sais qu'on n'a pas le droit, mais je me le permettrai. C'était un rêve, j'avais quand même tous les droits, non ?
Ben comment ? Et ça, c'est pas interdit encore, heureusement. Merci Jean-Luc Petit-Renaud. C'est beau, on y était. Voilà, c'est vrai qu'on a envie de ça, de toucher cette nappe blanche, de regarder les gens en face, de voir s'ils sont heureux.
Puis on prévient les restaurateurs, hein, quand on va retourner enfin au restaurant, pas rester une demi-heure, hein. On va rester très,
c'est ça.
Très
on a
longtemps.
Envie de passer du temps.
Ah oui.
Puis là, les terrasses avec les premiers beaux jours qui arrivent.
Ça serait entrée, plat, dessert, fromage, digestif, tout.
On va s'en sortir.
on va y arriver.
Se retrouve dans un instant pour notre dossier consacré aux pois chiches. De l'antiquité à nos jours, cette légumineuse nous veut du bien. Eh bien, on va voir ce qu'il a dans la tête, le pois chiche, juste après ça. Merci d'être avec nous jusqu'à midi et demi, la table des bons vivants avec Charlotte Langrand et Olivier Pouls à mes côtés. Et juste avant de parler du pois chiche, eh bien on écoute une des plus belles chansons de la planète, tiens, ce matin sur Europe 1, Woman de John Lennon.
Thank you.
Qu'est-ce que c'est beau, indémodable, intemporel, magnifique, c'était Woman de John Lennon sur Europe 1. Bon pour la santé, nourrissant, rassasiant, économique et délicieux, le pois chiche coche toutes les cases, comme on dit aujourd'hui. On en parle ce matin et figurez-vous qu'il existe même un livre consacré au sujet, le traité du pois chiche aux éditions Actes Sud. Tiens, première question déjà, Charlotte et Olivier, vous en croquez pour le pois chiche ?
Ah oui, j'en croque un peu pour le pois chiche, en falafel, hein, très classique, bah oui. De façon très classique. Et il y a un retour des frites de panis aussi à la farine de pois chiche, qui sont des fritures comme ça, qui sont très bonnes aussi.
Riche en protéines végétales, oui. Le pois chiche. Olivier, tiens.
J'en croque moins que Lucie Lescourou, notre rédactrice en chef, qui en a toujours un stock énorme, paraît-il, dans
tous ses états. Les a secs, en conserve, il y en a partout,
celle qui a beaucoup poussé pour ce sujet. Alors, je vous avoue que moi, à part le houmous, je suis pas un dingue de pois chiche, mais en préparant l'émission, il y a deux, trois idées de recettes dont on va parler dans un instant, qui m'ont donné très envie.
Oui, et puis on aura Julia Sedevjean qui ouvre un restaurant bientôt consacré uniquement au pois chiche, qui sera avec nous avec des recettes que vous pourrez refaire ce week-end, ultra simple, vous entendrez.
Et vous en mangez le pois chiche ?
Ouais, j'adore, moi, en houmous, en falafel aussi, en farine, dans la soca, enfin c'est vrai
un que couscous,
je...
tout simplement.
Oui, j'adore le pois chiche, moi. Originaire du bassin méditerranéen, justement, le pois chiche part, on va dire, à la conquête de nos assiettes depuis quelques années, Charlotte, et les chefs français ont bien compris son intérêt. Hein.
Oui, c'est revenu avec cette cuisine levantine israélienne, donc par exemple, on a des chefs comme Nadia Samut qui l'utilise beaucoup. Il y a Asaf Granit, le chef israélien de Chabour et Balagan. On peut citer Miznon aussi, ou Yafo, c'est une adresse qui fait que du houmous, hein, c'est simple. Et puis même le chef Christophe Baquet, qui est 3 étoiles dans le Var.
Au Castellet, oui.
Voilà, lui, il aime bien en manger chez lui, en salade.
Et bon, salut, parce qu'il nous écoute régulièrement, Christophe Baquet, avec sa belle cuisine 3 étoiles dans le Var. Olivier, c'est vrai que le pois chiche est présent dans des spécialités régionales aussi. Hein.
Dans le sud de la France, essentiellement, on vous l'a dit, c'est un produit issu du bassin méditerranéen, donc on le retrouve évidemment à Nice avec la fameuse soca, on en a parlé, les panis à Marseille, ouais. C'est vrai que des panis, il y avait en tout cas, je ne sais pas s'il y a toujours en cette période de confinement, mais comme il y a des baraques à frites en Belgique, il y a des baraques à panis où vous les achetez puis vous les mangez comme ça, tac, tac.
Et la soca sur les marchés de Nice aussi, c'est délicieux ça, cette galette de pois chiche, j'aime beaucoup, moi,
et
de
puis,
farine de pois chiche.
Il y a la cade de Toulon aussi, qui est une recette qui ressemble à la soca, et puis des salades, enfin bref, même des soupes, je crois.
Alors le pois chiche ne date pas d'hier, hein, nous avons au téléphone Farouk Mardam Bey, qui vient de consacrer avec Robert Bistolfi un traité du pois chiche aux éditions Sinbad Actes Sud. J'adore cette idée, moi, de consacrer uniquement un livre qui est vachement bien fait en plus, autour du pois chiche, c'est formidable. Bonjour Farouk.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il a de formidable alors ce pois chiche ? Pourquoi vous l'aimez tant et pourquoi vous lui consacrez un livre ?
Eh bien c'était au début par solidarité avec cette légumineuse très modeste, souvent décriée dans les proverbes, et qui se prête, comme vous venez de le dire, à des dizaines et des dizaines de recettes, aussi bien sous forme de grains entiers que sous forme de farine. C'est une légumineuse qui est devenue universelle, qui est née quelque part entre la Turquie et la Syrie et qui a commencé ses pérégrinations autour de la Méditerranée d'un côté et puis vers l'Iran et l'Inde, qui est maintenant le plus gros producteur de pois chiches.
Il existe différentes variétés, hein, parce qu'il n'y a pas un seul pois chiche en fait.
Oui, il y en a deux. Il y a le pois chiche dit kabuli, c'est celui que nous connaissons, que nous consommons. Et puis il y a le deuxi, le premier, le kabuli, les grains sont moyens à gros, de couleur plutôt blonde.
Ouais.
Alors que les deuxi sont plus sombres, sont plus petits et sont réduits souvent en farine.
Il faut savoir qu'au Moyen-Orient, d'ailleurs, il existe encore, je crois, 3 espèces de pois chiches sauvages, figurez-vous, qui n'ont pas été encore apprivoisées ni mis en cuisine.
Il y a beaucoup de pois chiches sauvages, justement. Les pois chiches domestiqués, disons, les pois chiches qu'on utilise depuis des millénaires, il faut le dire, sont ces deux variétés, le kabuli et le deuxi.
Farouk, vous parliez des proverbes autour du pois chiche, hein, c'est vrai, il a un pois chiche dans le cerveau, enfin j'en passe des pas meilleurs. On lui prête aussi de nombreuses vertus, hein, des vertus magiques et aphrodisiaques aussi au pois chiche.
Tout à fait, il y a déjà des médecins de l'Antiquité lui ont prêté des vertus extraordinaires, comme quoi il est vermifuge, diurétique, antirhumatismal, etc. Et aphrodisiaque parce que, vous savez, selon la théorie des humeurs, le pois chiche est à la fois chaud et humide, et cela conviendrait au rapport sexuel.
Ah, ben bah voilà, bah, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, moi, et sur plus d'informations,
on attend dans son placard maintenant.
Et... Voilà, d'ailleurs dans les traités arabes d'érotologie, il est souvent question de recettes au pois chiche.
Ah ben bah voilà. Et votre recette préférée au pois chiche, c'est laquelle, Farouk?
Écoutez, vous avez parlé du houmous, et je crois que tout le monde aime le houmous.
Bah oui.
J'adore le houmous, vous savez, cette purée de pois chiche, à condition qu'elle soit bien faite, crémeuse, mélangée.
Huile d'olive, citron.
À la crème de sésame avec un peu d'ail et du citron, et qu'on mange partout maintenant dans le monde. C'est devenu un aliment universel.
Exactement. Bien, merci d'avoir été avec nous, Farouk Mardambe. Je rappelle votre livre avec Robert Bistolfi, Le traité du pois chiche aux éditions Actes Sud. Bon week-end, Farouk. Merci d'avoir été avec nous.
Bon week-end à vous, tout le monde. Merci beaucoup.
Ne bougez pas, dans un instant, on va passer le pois chiche à la casserole, chers auditeurs. La chef Julia Sedevjian a plein d'idées. Facile pour le cuisiner ce week-end. A tout de suite.
Europe 1, Laurent Mariotte.
Il vient de loin, il nous nourrit depuis des siècles et on le cultive aujourd'hui en France. On fait le tour du pois chiche ce samedi matin et nous accueillons Julia Sedevjian, chef étoilée du restaurant Bayetta, un restaurant qui fait une belle place au pois chiche. Bonjour Julia.
Bonjour Laurent. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous ouvrez en plus, c'est courageux parce qu'on sait que c'est une période compliquée pour les restaurants, mais c'est pour ça qu'on voulait en parler aussi. Vous ouvrez ce printemps, Julia, un restaurant consacré au pois chiche qui va s'appeler Cicéron.
Exactement. Et pourquoi Cicéron? Eh oui. Cicéron, c'était un homme d'État de l'époque de la Rome antique avec une verrue en forme de pois chiche. Donc voilà, on a trouvé ça un peu marrant.
C'est ça. Hein. On pense que justement, on fait une relation entre le pois chiche et sa verrue, mais Cicéron, en latin, Cicère, ça veut dire pois chiche aussi. Hein,
et Cicerne en arménien. Et moi, je suis d'origine arménienne, oui. Donc en plus, là, on a tout juste.
Il y a tout.
Vous avez des origines arméniennes, vous avez aussi des origines niçoises. Ouais. Ça veut dire que le pois chiche, fait partie de votre culture depuis votre tendre enfance, alors ?
Exactement, Laurent, exactement. Depuis ma tendre enfance, que ça soit à Nice ou du côté de mes origines arméniennes de mon papa, j'ai toujours consommé du pois chiche, que ça soit la soca et les panisses, ou comme Farouk le disait tout à l'heure, les hummus, le falafel, etc. Je baigne dedans et ça faisait longtemps que j'avais envie de consacrer un endroit autour de cette belle légumineuse parce qu'on peut en faire plein de choses et que ça me rappelle tous mes souvenirs d'enfance.
Vous le préférez comment? Sec, avec du trempage ou en conserve déjà cuit? Comment vous le préférez? Ou en farine?
J'adore la farine de pois chiche et surtout depuis que j'ai découvert une farine en particulier là, c'est un moulin à carrosse à côté de chez moi qui fait ses farines bio de tout ce qui est légumineuse, lentilles, pois chiche, riz, et c'est la différence, on va goûter tout à l'heure.
Comment
les panisses.
Comment il s'appelle ce moulin à farine?
Alors, la marque s'appelle Sabopa,
oui.
Et c'est un moulin à carrosse.
D'accord.
Et franchement, rien à voir. Il y a des farines de pois chiche, j'arrive même pas à faire des panisses avec.
Alors, vous êtes
elles ne se tiennent même pas.
Ah bon?
C'est dingue.
Et
vous êtes en train de travailler justement sur le pois chiche actuellement pour l'ouverture de ce restaurant. Vous avez mis au point plein de recettes et vous n'êtes pas venu les mains vides, comme on dit à la table des bons vivants. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Julia?
Donc, je vous ai apporté justement la petite panisse que je vais vous faire déguster avec la mayonnaise à base de pois chiche, donc sans œufs. Qui est complètement vegan.
Ah oui.
On va se faire passer.
Mmh. Oh là là,
et après, je vous ai amené des petits desserts parce qu'en fait, de l'entrée au dessert, je vais faire tout à base de pois chiche.
Ça, c'est
moi,
beau.
J'adore les panisses, je le disais tout à l'heure, ce côté croustillant à l'extérieur, tout à fait moelleux dedans. Ça fait un peu penser à des frites, en fait.
Je trempe mon panisse dans la mayonnaise vegan. Donc,
hein. Exactement.
Elle est faite avec quoi, cette mayonnaise vegan?
En fait, on fait une réduction d'eau de cuisson des pois chiches qui contient énormément de protéines, qui va remplacer le jaune d'œuf.
Ouais.
Et ensuite, on met une poignée de pois chiches qui rapporte encore de la protéine. Et là, on va monter comme une mayonnaise traditionnelle.
C'est
et
incroyable.
On a une texture de mayonnaise.
On a une texture de mayonnaise.
Ah, et un goût de mayonnaise sans œufs. Bon.
Elle est forte. Elle est forte, Julia Sedevjian. Et le panisse, il est très moelleux aussi, ce panisse.
Ben, c'est la farine qui apporte un côté moelleux. Bon, là, elles ne sortent pas de friture, donc elles ont moins ce côté croustillant, mais vraiment.
Oui, on dit une panisse. Hein. J'ai dit ce panisse, mais c'est une panisse, absolument. On parle beaucoup aussi des vertus de l'eau de cuisson du pois chiche, qu'on appelle l'aquafaba, qui est très utilisée en pâtisserie. Aujourd'hui, de nombreux chefs s'en servent, Charlotte.
Oui, c'est simple. Il suffit qu'on achète les choses en boîte ou pas. En tout cas, il faut
Excusez-moi, je suis en train de manger. C'est
le pois chiche.
Il faut récupérer l'eau de la cuisson et la battre au foie électrique, hein, comme si on voulait les monter en neige.
Comme des blancs d'œufs.
Exactement, comme des blancs d'œufs. Et du coup, ça s'utilise vraiment très facilement, ça allège. Et puis, c'est très bien pour les gens qui ne peuvent pas manger d'œufs. Ça permet de faire aussi. Je crois que le chef Pierre Auger en met dans la mousse au chocolat.
Oui, on peut faire des mousses au chocolat. Là,
c'est parfait. Et c'est ce que vous nous avez apporté.
C'est ça, alors
parfait.
Là, exactement. Alors, il faut toujours finir sur une note sucrée, on est d'accord.
Tout le temps.
Alors, elle est belle, la mousse au chocolat. Ouais.
Hyper aérienne,
très très légère, même en densité quand on a le petit pot dans la main.
Sans beurre, sans œufs.
Oh la vache.
Je veux la recette, s'il vous plaît.
Bien sûr.
Donnez-la nous.
C'est bluffant, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant parce qu'il n'y a pas d'œuf, il n'y a que de l'eau de cuisson du pois chiche,
exactement.
Le chocolat, un peu de sucre en plus quand même.
C'est vraiment une cuillère de sucre vergeoise. C'est rien.
J'avais
et à côté,
aussi
vous
légère.
Avez le cookie du coup pois chiche que vous pouvez même tremper dans le mousse au chocolat.
C'est un cookie au pois chiche à côté,
ouais.
Là.
Donc là, on est sur de la farine de pois chiche, pois chiche cuit, et avec un beurre d'amande, pareil, vegan, tout, sans œufs, sans lait, sans... Et en fait, à la base, c'est aussi ça qui m'intéressait sur le pois chiche, c'est que pour les intolérances, c'est super parce que la protéine, elle remplace plein de choses. On peut faire des beurres d'amande, on peut...
Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ça n'a pas le goût du pois chiche. On pourrait avoir peur, on pourrait dire, tiens, cette mousse au chocolat, elle va avoir un goût de pois chiche. Pas du tout. C'est un goût de mousse au chocolat.
Oui, c'est ça. Il est 4-4, ce pois chiche, cette légumineuse, parce qu'il peut avoir du goût quand on l'assaisonne comme il faut. Et à côté de ça, il peut être neutre pour faire des pâtisseries comme vous le faites dans votre restaurant.
On réalise des meringues aussi pour faire des pavlova. Bah, si on ne dit pas que c'est au pois chiche, on ne se dit pas « Oulala, je vais manger une meringue au pois chiche, je vais sentir le pois chiche ». Pas du tout, enfin, c'est très léger, c'est neutre.
Et puis on va au restaurant pour ça aussi, pour découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, de nouvelles façons de cuisiner. Donc c'est un beau champ d'expression pour vous, Cicéron, qui va ouvrir bientôt, Julien.
Ah ouais, hein, complètement, nous on va s'éclater, hein. Là je vois, c'est sans limite, sans barrière et on s'amuse.
Et ben, merci d'être venu nous voir, Julien Sedevjean, bientôt Cicéron.
Et Cicéron,
à Paris.
C'est pas carré.
C'est exactement
Cicéron. Exactement, c'est ce qu'on va marquer sur nos sacs.
Et ben, dans le 5e arrondissement de Paris, vous retrouverez les références des recettes sur europe1.fr et également en super vous abonnant à notre newsletter, vous savez qui est gratuite, que vous recevez tous les dimanches dans votre boîte mail aux alentours de 10h. Merci Julien Sedevjean.
Merci, bravo.
Ne bougez pas, on revient dans un instant avec un très bon vivant. On est heureux de l'accueillir parce que c'est le parrain de l'émission, c'est Benabar. A tout de suite. Il est là, il arrive, il est en train de s'installer. Benabar est notre invité, mais juste avant de l'accueillir, on écoute un extrait de son dernier album. L'album s'appelle « Indocile heureux » et l'extrait « Les belles histoires ». Magnifique chanson, écoutez bien, à tout de suite.
Où sont passés les passants qui flânaient le nez en l'air? Joli cœur au fil du vent et non pas de Tinder. Où sont passés les trépassés, les Roméo, les Juliettes? Qui enlacé sans s'enlacer meurt depuis 1597. Et le piment doux des premières querelles d'amoureux. La première fois où on dit nous, la première fois qu'on se sent deux. Les palpitants brisés aux sanglots pathétiques. Où sont passés les dépassés? Où sont les romantiques? Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Cet homme qui court dans cet aérogare. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Où est l'élève subjugué qui pour sa prof de français rédige un mot doux sans penser qu'elle le corrigerait. Les pensées que vous m'avez inspirées, E.E.S. L'amour s'accorde avec le COD, une maîtresse reste une maîtresse. Et les fleurs bleues du passé, où sont passés les anges? Les cupidons aux ailes froissées sont-ils en vigilance orange? Et le soupirant, rougissant, qui a le cœur en panique? Où sont passés, bon sang, les derniers romantiques? Les belles histoires, elles sont bien quelque part. C'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Cet homme qui court dans cet aérogare. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard.
sens passer le rouge aux joues et les symptômes de l'AVC. Quand on éprouve malgré nous ces sentiments incontrôlés. Et les sonates de Chopin qui a coupé la musique. Et puis merde à la fin où sont passés les romantiques. Elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour attraper une femme en pleurs qui part. Cet homme qui court dans cet aérogare ne veut pas croire qu'il est juste en retard.
Ah, ça fait du bien. Benabar en boucle, les belles histoires, un bel extrait de son dernier album, Indocile, heureux, observateur, joyeux, curieux, inquiet, enthousiaste, gourmand, bon vivant. Il est tout cela à la fois, Benabar. Il vient nous voir donc avec ce 9e album. Ça fait plus de 20 ans qu'il partage avec nous les petits riens et les grandes joies du quotidien. C'est un Indocile heureux, on vient de l'entendre. Et c'est le parrain de l'émission. Bonjour Benabar.
Bonjour, très content d'être là.
Ah bah, plaisir partagé. Qu'est-ce qu'il est bien
une
cet
émission,
album.
On peut parler la bouche pleine. Ça fait plaisir.
C'est vrai, c'est la seule, c'est autorisé. Bravo pour ce très bel album,
merci
l'Indocile
beaucoup.
Heureux. Je vous le disais hors antenne, il y a plein de tubes. Il y a les divorcés qui parlent tous ceux qui ont connu ça.
Oui.
Voilà. Les belles histoires qu'on vient d'entendre. Un Lego dans la poche où vous parlez de cette crainte des parents quand ils voient les enfants quitter le nid familial.
Et on a beau s'y préparer, comme on disait hors antenne, à chaque fois quand ça arrive, on le prend en pleine tronche.
C'est ça.
C'est ingérable en fait. Je crois qu'il ne faut même pas essayer de le gérer, quoi.
Très belle chanson sur les filles de plus de 40 ans aussi. Vous étiez très inspiré et vous jouez bien plus encore au chanteur, j'ai l'impression, dans cet album que d'habitude.
Oui, je m'en suis rendu compte a posteriori. C'est vrai que grâce à notamment Bertrand Lamblot, qui est le DA de l'album, Johan, il y a un côté interprète un peu plus. Avant, j'étais un peu comme beaucoup dans une tradition de chanteur qui écrit ses textes. Et en fait, le chant est un peu le service après-vente du texte. C'est un peu comme Renaud ou dans cet esprit-là. Et puis là, c'était un peu comme si c'était pas mes propres chansons.
J'ai des mélodies qui claquent.
Ah oui, les mélodies sont super. Les
Merci.
Textes sont super bien travaillés. Enfin, puis ils cartonnent. Voilà, c'est même plus la peine d'en parler parce qu'ils.
Des compliments, un verre de blanc.
Vous êtes insensible du quotidien, Benabar. Vous êtes inspiré par le temps qui passe, on vient de le dire. Comment vous la vivez, cette période actuelle ?
Curieusement, j'essaie d'être un peu philosophe, j'essaie surtout de penser à tous ceux qui sont vraiment dans de grandes difficultés, Dieu sait si y en a, et que c'est pas fini malheureusement. Donc penser aux plus fragiles, et puis évidemment économiquement, socialement, mais aussi les anciens, c'est très inquiétant pour les jeunes, pour les étudiants, etc. Eux, je me fais du souci pour eux, il va falloir les suivre et être là.
Ouais. Ouais, il faut qu'ils retournent à l'école vite, nos étudiants, ouais. ils en ont besoin. On s'était appelé pendant le confinement, quand on faisait l'émission à distance, et vous nous disiez, je suis en cuisine, j'ai toujours le téléphone dans une main et un ustensile dans l'autre. Vous passiez beaucoup de temps en cuisine.
ouais, j'ai pas quitté la cuisine pendant tout le confinement.
Vous avez fait du gras aussi pendant le confinement ou pas,
trop. Pas trop bizarrement, parce que j'ai réussi
forme,
à faire du sport quand même.
Ouais.
Je veux pas de partie de ceux, on parlait des 50 ans et tout ça, avec les trucs internet là, pour faire des pompes et tout ça. Mais ça m'a pas empêché quand même de boire des coups et de manger. Ouais.
Quel est votre goût de la semaine, Benabar ?
Mon goût de la semaine, passer un repas hier avec mes parents et mes enfants. Et comme mes parents étaient vaccinés, on peut commencer à se revoir en faisant hyper attention,
bien sûr.
Mais comme ils sont très âgés, on est très inquiets. Et donc là, c'était vraiment très émouvant hier de pouvoir manger ensemble.
Les retrouvailles
Les retrouvailles, ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
du
fait
coup,
ça.
Du coup, peu importe l'assiette, ce qu'il y a dedans, enfin un peu, mais en tout cas, c'est
non,
la convivialité
aussi. Non, l'assiette
aussi,
est plus importante que mes parents. Non, ouais. Non. Mes parents, c'est vraiment très accessoire.
Alors, on en parlait, Bruno Benabar, des étudiants. Depuis plusieurs mois, c'est vrai qu'on suit leur situation. Ils ne sont pas épargnés par la crise. Bien manger est même de plus en plus difficile pour un grand nombre d'entre eux. Et Charlotte, vous revenez sur une initiative qui se met en place pour les soutenir justement nos étudiants.
Justement, ça s'appelle Restaurons les étudiants durablement. C'est lancé par la communauté Écotable. Donc le principe, c'est de distribuer des repas gratuits aux étudiants devenus précaires à cause de la crise, parce que tout le monde n'a pas des parents derrière. Et puis les petits boulots alimentaires habituels qui permettent de remplir le frigo, ils sont devenus quand même très très rares. Donc depuis quelques semaines, Écotable a imaginé un dispositif assez intelligent parce qu'il fait d'une pierre trois coups. C'est-à-dire qu'il distribue des repas aux étudiants tout en mobilisant les restaurateurs désœuvrés et volontaires en faisant travailler les producteurs qui souffrent aussi de l'absence des restos.
Gagnant-gagnant, c'est exactement comme ça que ça marche. Comment ça fonctionne alors concrètement?
Alors, ils ont ouvert une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Ce sont des dons qui sont distribués sous forme d'enveloppes de courses aux restaurateurs volontaires pour qu'ils achètent à leurs producteurs les matières premières dont ils ont besoin pour cuisiner. Donc ça paraît simple, hein, mais il fallait y penser en fait. La semaine dernière à Paris, ça représentait quand même déjà 500 repas remis aux étudiants avec des restaurants solidaires comme Désiré, les marmites volantes, la table du réchaud. Cette semaine, ils seront rejoints par Botanique, Le Bel Ordinaire, Terre ou Tintamarre. Précisons que la démarche, elle est durable. Il ne s'agit pas de servir de repas bas de gamme parce qu'ils sont distribués gratuitement. Mmh. Ça s'appelle écotable. Hein, donc les ingrédients sont choisis par les chefs pour leur qualité. Et on fait des super tartelettes de légumes ou des choses comme ça. Hein.
Alors l'initiative, elle veut prendre une ampleur nationale, bien sûr. Comment on peut les aider concrètement ça, à se développer?
Alors évidemment avec les dons, parce que jusqu'ici, il y avait deux centres de distribution à Paris en semaine dans le 13e et le 18e. Il y a un troisième qui ouvre aujourd'hui au Grand Contrôle dans le 12e. Bientôt...
En région.
Il y a des discussions à Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille.
Ah ouais.
Voilà, donc depuis le début de la campagne, ça représente 5000 repas financés grâce à vos dons. C'est-à-dire 500 repas par semaine pendant 10 semaines. Mais ça ne permet pas d'aller jusqu'à la fin de l'année universitaire, qui a 20 semaines. Donc, rendez-vous sur KissKissBankBank pour soutenir la belle initiative. Voilà.
Eh ben merci Charlotte, et on vous retrouve demain bien sûr dans le journal du dimanche. Quel genre d'étudiant vous étiez, Benabar? Parce que vous avez travaillé très tôt vous quand même.
Oui, moi j'ai eu le bac et j'ai arrêté tout de suite. J'étais le célèbre peut mieux faire. J'ai jamais redoublé, enfin j'ai été jusqu'au bac et puis après j'ai arrêté.
Ouais. Et question nourriture, comment vous sustentiez à l'époque?
On a toujours bien mangé dans la famille, on est dans une famille de mangeurs italienne du côté de ma mère, donc on a toujours fait attention à ce qu'on mangeait, tout le monde a fait, mes frères font à manger, mon père fait à manger, ça a toujours compté pour nous.
Il y a des recettes classiques que vous continuez à cuisiner, il y a une vraie transmission autour de la cuisine italienne et corse dans votre famille.
Oui, ouais, notamment les plats italiens qui se perdent un petit peu parce que il y a tous ces plats vraiment très terroirs. Ma grand-mère vient de Vénétie, au-dessus de Venise, et des plats qui disparaissent, notamment le bœuf roulé là, avec plein d'épices dedans.
Et les herbes.
Et les herbes. Ouais. Ce sont des choses, si les mamies le transmettent pas, ça disparaît malheureusement, donc on le note, exactement.
Ouais. C'est un chanteur, mais c'est aussi le gardien du temple de la tradition culinaire italienne. Benabar est avec nous jusqu'à midi et demi. On revient juste après les titres du journal de la mi-journée. Bon samedi midi, si vous venez d'arriver sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi, Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, les premiers transferts de malades du Covid ont commencé entre la région parisienne et la province. 3 malades ce matin, partis de Paris, Bobigny en Seine-Saint-Denis et Clichy dans les Hauts-de-Seine. Direction par hélicoptère Angers, Nantes et Le Mans. Selon nos informations, ce sont une dizaine de patients qui devraient être évacués ce week-end depuis l'Île-de-France, alors que plus de 1100 malades sont actuellement en réanimation dans cette région. Et Olivier Véran disait jeudi qu'il fallait se préparer à des dizaines, voire des centaines d'évacuations. En visite hier soir à la Pitié-Salpêtrière à Paris, Jean Castex a dit « Nous suivons au jour le jour cette situation pour nous tenir prêts à tout moment à prendre les mesures que celle-ci appelle. » Nous reviendrons aussi sur le protocole qui va être allégé dans les EHPAD. Les pensionnaires vaccinés pourront sortir sans faire de test et sans être soumis à un isolement de 7 jours à leur retour, ce qui restera toujours le cas pour ceux qui ne sont pas vaccinés, comme nous l'explique Johanna Chabas. C'est demain qu'aura lieu à Argenteuil une marche blanche en hommage à la jeune Alisha frappée et jetée dans la Seine par deux camarades de classe. C'était lundi. Un fait divers terrible qui interroge sur ce qui peut conduire des adolescents à une telle extrémité, à une telle violence. Invité du journal de la mi-journée pour en parler, le psychiatre Patrice Huert, spécialiste des enfants et des adolescents. Toujours dans le journal de la mi-journée, la 46e cérémonie de César et le carton plein pour Albert Dupontel. 7 statues pour l'adieu au con, meilleur film, meilleur réalisateur et César des lycéens notamment. Une cérémonie très revendicative, nous dira Mathieu Charrier, avec Roselyne Bachelot interpellée alors que les salles de cinéma sont toujours fermées. Et puis nous verrons si Noël Le Graët est en route pour un 4e mandat alors que le Breton est à la tête de la Fédération française de football depuis 10 ans, vote en ce moment au siège de la Fédération. Le temps de ce samedi gris et venteux dans le Nord, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des des reporters d'Europe 1. Gros plan sur la mobilisation des autorités pour éviter les affrontements entre bandes de jeunes. Et séquence étonnante, vous l'entendrez, à bord d'un avion avec des policiers de la PAF qui surveillent des zones sensibles.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
12h03 sur Europe 1, tout de suite Laurent Mariotte.
Ça pour un euro. Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Nous sommes ensemble depuis 11h, hein. Soyez les bienvenus si vous nous retrouvez. Benabar casse la croûte avec nous jusqu'à 12h30. Ça fait du bien d'entendre dans le générique les bruits de restaurants,
ça
Bruno.
Ça manque tellement les restaurants, ça devient très douloureux. Et je pense à eux vraiment beaucoup. Beaucoup d'entre eux qui sont quand même dans de grandes difficultés, puis c'est pas terminé, les pauvres.
Vous venez nous voir avec votre dernier album, Indocile Heureux, qui est une petite merveille. On a écouté les belles histoires tout à l'heure. Vous parlez des restaurants qui sont fermés, du monde de la restauration. Vous êtes très proche de ce monde-là. Vous avez beaucoup d'amis cuisiniers, d'ailleurs.
Oui, ça s'est fait comme ça, en fait. C'est depuis longtemps, j'ai des copains cuisiniers, vignerons, comme de par hasard, quoi. C'est-à-dire que, puis après, il y a un peu des cooptations aussi dans ce milieu-là. Quand on en rencontre un, on en rencontre trois, quatre. Et je passe beaucoup de temps avec eux, mais même on a des conversations aussi profondes sur nos métiers. Je trouve qu'il y a une vraie similarité entre les deux métiers, je trouve.
Jean-François Piège,
Jean-François,
Bruno Doucet.
Oui, c'est ça, Candebord.
Yves Candebord,
ouais.
Qui est là régulièrement, vous voulez dire?
Mais oui, je l'avais eu au téléphone pendant le confinement, quand on avait fait l'émission.
Ah bah ça tombe bien, il est avec nous au téléphone, il a quelque chose à vous dire. Bonjour Yves Candebord.
Bonjour messieurs, bonjour Bruno.
Salut, comment on va?
Comment il va, Yves Candebord? Il est dans son sud-est, hein, il sera là avec nous la semaine prochaine. Yves, vous aviez une question à poser à Benabar, mais juste avant que vous lui posiez cette question, je vous ai demandé de nous définir Benabar. Si Benabar était un plat, ce serait quel plat?
J'espère que ce serait un peu changeant, en tout cas un plat assez simple, familial, quelque chose entre le bœuf bourguignon ou le poulet basquez.
Moi, je vous voyais bien comme ça. Et vous le voyez comment, vous, Yves, notre Benabar?
Moi, je le vois comme un couscous.
Ah, yes. Ah, oui, j'ai une passion pour le couscous.
Parce que le couscous, c'est vraiment pour moi le plat du partage. C'est le plat aussi complet. Voilà, il y a une belle part qui est faite aux céréales et aux légumineuses. C'est le plat qu'on peut manger aussi bien en famille qu'avec des amis. Et ça représente bien Bruno. Et surtout, c'est le plat qui ne laisse pas indifférent. Parce que dès qu'on y met de la rissa, il y a de la puissance, il y a du caractère. Et je sais que l'indifférence, c'est quelque chose que Bruno ne supporte pas.
C'est vrai, Bruno?
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce qu'il dit sur le couscous, c'est vrai que c'est un plat magique, le couscous. Hein. Comme tous ces plats très terroirs, en l'occurrence le Maghreb, mais ces plats de paysans, quoi.
Une question à poser à Bruno, Yves?
Alors, une question, parce que j'aime bien comprendre ce que les amateurs professionnels font dans leur cuisine. Et j'ai cru entendre, ou on m'a dit, je ne sais pas, c'est peut-être aussi des ondits, hein, qu'il y avait un nouvel instrument qui était arrivé dans la famille Benabar, une cloche. Ça va servir à quoi? Fumer, ça?
Ah oui, exactement. Alors écoute, je sais, bah, d'ailleurs, il va falloir que tu m'expliques comment m'en servir. J'ai craqué là-dessus sur Internet une cloche pour fumer.
Ah oui,
avec
ah ouais.
des prévisions très, très prétentieuses, faire mon propre saumon et tout ça, je sais pas jusqu'où ça va aller, hein,
mais c'est bien.
Mais ça m'amuse beaucoup, et puis c'est sublime, tu sais, t'as du bois de hêtre et tout ça, c'est hyper marrant à faire.
Ah, et le goût fumé, ça marche effectivement sur des charcuteries, sur des poissons, même des
sur
légumes.
Des légumes, hein.
Même des légumes
des pommes
peut
de terre, par exemple, des petits trappes.
Voilà, je vais tenter ça, ouais, je sais pas où ça va m'emmener, mais en tout cas, je vais m'y mettre.
Merci Yves Candebord d'avoir été avec nous.
À très vite. À très vite.
Ouais, merci à tous, et surtout un bon appétit et une bonne émission.
Et ben merci Yves, et à la semaine prochaine. Voici le plat du jour. Vous parliez de votre amour du bœuf bourguignon, alors qu'est un vrai plat de bistrot.
Wow.
On vous apporte un bœuf bourguignon qui vient tout droit de Bouillon-Pigalle. Alors, je m'adresse à nos auditeurs qui nous écoutent en région. Quand vous venez à Paris, ça fait partie des adresses qu'il faut faire. Le Bouillon-Pigalle, ce sont des plats de bistrot accessibles, hein, Charlotte.
Rapport qualité-prix assez, assez étonnant.
Ouais. Là, on a moins de 10 euros. Hein.
C'est ça. Ils font souvent entrée, plat, dessert, 10 euros d'ailleurs, non?
Quel morceau, là, d'ailleurs, dans ce bœuf bourguignon? Vous reconnaissez, tiens, Bruno, le morceau?
Quoi, c'est le paleron, c'est pas ça?
Qu'est-ce que c'est?
Non, ça pourrait bien être,
ouais.
Oui.
Il ouais, y a un peu de gélatineux, oui. Paleron, bien vu, c'est ça. Du paleron et un petit peu de collier aussi, oui, exactement. Avec la carotte, la pomme de terre et puis le petit jus qui enrobe bien. Moi, c'est vrai que je voyais bien en bœuf bourguignon et Yves Candebord, vous avez vu en couscous. C'est...
Oui, les plats. Deux marchent. Puis les plats qui mijotent, c'est plus facile quand même, parce que si, au moins, c'est, quand on les oublie sur le feu ou quand on les fait réchauffer, c'est encore
mieux. Oui, mais meilleur. Ça vous ressemble bien parce que je vous connais un petit peu à table et vous aimez passer du temps à table avec les gens que vous recevez, oui. Benabar. Donc le mijoté, on le met au milieu de la table.
Exactement.
Et comme ça, on reste à table avec ceux qu'on aime. Hein.
Exactement. Oui. Moi, je ne suis pas du tout vérine, tous ces trucs-là. Je vais plutôt pas mijoter. Puis en effet, passer des heures à table, refaire le monde, c'est quand même un exercice très français qui est délicieux. Quoi.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls, alors?
Le bœuf bourguignon, ça m'évoque évidemment la Bourgogne. Alors je ne sais pas ce qu'on a mis comme vin pour le faire. En principe, c'est un vin de Bourgogne. En général, on utilise le même vin. Bon, on ne met pas un grand vin
dans le bœuf bourguignon. On ne va pas mettre un Gevrey Chambertin non plus. Hein.
Mais si on a un Gevrey Chambertin après pour boire avec, moi je veux bien. Mais plus modestement... Un vin du nord de la Bourgogne, un Irancy par exemple.
Ah, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Eh bien, Paris-Irancy, vous savez ce que ça représente en album de Benabar, un docile heureux? C'est deux fois un docile heureux et un petit peu du début du live de Sardou. C'est la route que j'ai faite la semaine dernière. J'ai écouté votre album, un docile heureux, deux fois que j'ai mis en boucle comme ça. Je me suis... Alors, à fond, moi j'adore parce que je connais les paroles, donc je chante avec vous. Et puis un petit bout de Sardou pour arriver à Irancy. Voilà, c'est ça la route en
Génial, c'est marrant distance. De voir comme ça.
Le nouveau point trafic.
Ouais. C'est ça, exactement. Donc merci à Bouillon Pigalle pour ce beau bœuf bourguignon et vous pouvez le commander en attendant que les restaurants rouvrent, comme on dit. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec les deux minutes du vin d'Olivier Pouls. A tout de suite avec Benabar.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important? Le premier amour?
Il est venu avec un album pas comme les autres, il a bu son verre comme les autres, Benabar est des nôtres jusqu'à midi et demi.
À ce sujet,
c'est vide.
C'est vide.
Je vais vous en servir, tiens.
Qu'est-ce qu'on voit, Olivier Pouls? Vous allez nous en parler dans un instant, mais petit teasing, comme on dit, sans dire trop.
Bah, là, on boit quelque chose de sacrément bon avec un produit. C'est le début de la saison. Benabar l'a déjà dans l'assiette. Vous allez l'avoir dans un instant. J'en dis pas plus.
Non, on n'en dit pas plus. Restez avec nous. C'est une surprise avec modération, mais avec plaisir, bien entendu. Benabar vient nous voir avec Un docile heureux, son dernier album. Vous êtes le portraitiste de nos contemporains. Comment ça vient, une chanson, Benabar, le sujet, les mots?
Je consacre beaucoup de temps à réfléchir au sujet, vous voyez, à l'angle pour essayer d'avoir des sujets, bon, sans prétendre qu'ils soient très originaux, mais un peu personnels, un peu singuliers. Et puis après, il y a tout le travail de rédaction pure, où là, c'est vraiment très laborieux, mais la période d'inspiration, j'y consacre beaucoup de temps à savoir de quoi je veux parler, comment je veux en parler.
Vous observez, vous notez, vous réfléchissez?
Ouais, c'est des bouts de trucs, des situations, des personnages qui m'obsèdent, mais ça peut me prendre 10 ans pour faire une chanson. Il y a des chansons qui mettent du temps.
Et pourtant, on a l'impression que ça coule tellement de sources.
Merci, ça c'est tout le travail par la suite.
Ouais, que ce soit évident comme ça.
Retravailler à l'extrême. Je suis très laborieux, moi j'y retourne vraiment. Même il y a des chansons qui étaient terminées, qu'on a reprises pour changer un mot par-ci par-là, pour que ce soit très efficace.
Quoi. William et Jack, que j'aime bien moi, sur l'éloge de la classe moyenne, on peut dire.
Exactement.
Hein. William et Jack, c'est vrai, c'est hyper bien vu comme idée de chanson. Ce sont les Dalton du milieu. Et on les oublie tout le temps, William
Exactement.
Et Jack. Hein.
Et, ouais, et, puis c'est, et à juste titre, la classe moyenne dont je viens... se sent souvent un peu négligé, un peu maltraité, et à juste titre quand même. Donc c'était une volonté aussi de célébrer, comme on le dit dans la chanson, classe moyenne, classe quand même. Quoi. C'est-à-dire que mais ce sont des gens, en effet, qui font les impôts, qui font toujours entre deux aides,
c'est
toujours
ça.
À la limite d'avoir une aide. Et puis on leur parle avec déférence un peu tous les cinq ans quand on veut qu'ils votent. Quoi.
Ouais, c'est bien vu. Alors vous qui aimez jouer avec les mots, je vous offre Agueuzy. C'est un journal gratuit édité par les éditions Menu Frottin. C'est le journal stochastique de l'alimentation. Stochastique, j'ai Oula. Découvert ce mot. Ça veut dire aléatoire. Ça veut dire qu'il sort comme ça de temps en temps. Et c'est des mots autour de la nourriture, autour de l'alimentation. Ça peut Bien. Vous plaire. Il y a plein de mots assez rigolos. Agueuzy, c'est l'absence de goût. C'est justement un des symptômes du Covid. En plus, c'est d'actualité. Oh, mais je pense que ça peut vous plaire pour écrire la suite du dîner, peut-être, par exemple.
Exactement. Oui. Bon, en ce moment, c'est sûr qu'on ne refuserait pas les dîners. Là, en ce moment.
Ah oui, là, on le refuse. Oui, c'est vrai que on a envie d'y aller.
Oui, on irait.
Alors, c'est l'heure des deux minutes du vin d'Olivier Pouls. Alors, vous nous avez mis en bouche, comme on dit, Olivier, avec ce vin blanc. Vous allez l'accorder avec deux produits de saison et puis un produit plus intemporel. On commence par quoi alors ?
Alors, premier produit de saison, c'est les crevettes, vous savez. Alors, pas les crevettes de Madagascar ou du bout du monde élevées dans des conditions bizarres. On parle des petites crevettes de nos côtes, les petits bouquets,
les
par
bouquets,
exemple,
oui.
Qu'on jette dans une poêle, juste dans un petit peu de beurre frémissant, une petite goutte éventuellement de pastis pour les enrober, puis on les mange entières.
Ou du whisky avec le whisky.
Ou le whisky avec le whisky tourbé.
Ah oui.
Ça marche très bien aussi. Et là, ça me donne envie de fraîcheur, ça me donne envie d'un vin du sud de la France, par exemple, avec ces notes parfois un petit peu anisées qu'on peut trouver dans certains blancs de Provence, ou alors bien sûr la Bourgogne, mais la Bourgogne minérale tendue de Chablis, et bien évidemment les vins de Loire. Et là, les vins de Loire, on y est, puisque je vous ai apporté, et ça va faire la transition avec notre prochaine association, je vous ai apporté un Sancerre, d'un magnifique domaine, le domaine Alphonse Mello.
C'est beau, hein.
Et alors ça, c'est la droiture, l'aristocratie sancerroise. Là, avec les crevettes, vous y voyez la petite minéralité du vin, on s'y voit bien. Hein.
J'aime bien ces vins très précis, j'aime bien ça, pas trop compliqué.
Exactement.
Tendu.
Ouais, c'est ça, je suis vraiment amateur, mais je suis pas connaisseur, je suis pas le genre à regarder le vin sous toutes les coutures.
Non, à le boire.
Et je suis plutôt le genre à le boire, et j'aime bien quand les vins sont simples. Quand c'est trop compliqué, en fait, moi, ils m'échappent un petit peu les vins. Ça me passe un peu au-dessus de la tête. Ouais,
non, mais vous avez raison, il faut se mettre à la hauteur du plaisir, tout simplement.
Et ça, ça marche avec un chèvre frais aussi.
Remarquez, c'est le début de la saison.
Mais
les
oui.
premiers chèvres frais, parce qu'il y a une saison pour les fromages, rappelons-le.
Oui.
Là, ça y est, les premiers bons chèvres frais sont là. Ça, c'est les fromages chèvres frais de Loire, justement. Et avec ce Sancerre, avec ce Sauvignon, on pourrait aller sur un Sauvignon plus modeste. Il n'y a aucun problème pour un Sauvignon de Touraine. Ça marche aussi. C'est pour moi les premières saveurs de printemps.
Alors, produit intemporel qu'on trouve toute l'année grâce effectivement à la provenance, c'est la banane. Qu'est-ce qu'on boit avec la banane ? On boit sans serre blanc aussi ?
Pas forcément. Alors, moi, je vous vois venir, la banane, on parlait du pastis avec les crevettes. Moi, c'est le petit coup de rhum pour flamber les bananes.
Magnifique.
Ça, c'est quand même magnifique. Alors, banane flambée au rhum. Bon, évidemment, on pourrait boire une petite goutte de rhum, mais il y a une association qui marche bien aussi, c'est banane et le chocolat. Chocolat blanc, chocolat noir.
Ah oui.
Et là, on peut aller se balader à Porto. Chocolat noir. Porto rouge et avec chocolat blanc, essayez avec un Porto blanc, c'est pas
ça
mal.
Marche, ça ouais. marche, ouais. Vous êtes curieux en association comme ça
Même j'ai des goûts très, très classiques, moi, quand même. Et puis, en ce qui concerne le vin, moi, c'est plus la quantité que la qualité.
On reste sincère.
Il y a les choses, là.
C'est bientôt l'heure de passer sur le grill des bons vivants en Benabar. On vous a réservé une surprise, tiens, à propos. On revient avec vous juste après ça. Ne bougez pas, hein. On est ensemble jusqu'à midi et demi. Bon app, hein, si vous êtes à table.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
C'est le parrain de notre émission, il était là pour la première en septembre 2018, à qui le dites-vous ? Benabar vient nous voir avec son dernier album, Indocile Heureux, on a entendu les belles histoires tout à l'heure. Alors Benabar chanteur, hein, mais Benabar acteur aussi. On vous a vu dans Incognito d'Éric Lavelle, oui. Victor et Célia de Pierre Jolivet, dernièrement dans Beaux-parents avec Didier Bourdon et Josène Velasco. Vous aimez faire l'acteur aussi, hein ?
Oui, c'est passionnant comme métier. Je fais ça avec beaucoup de cœur, d'intérêt et puis de responsabilité aussi, parce que je veux pas décevoir les gens qui m'embauchent et puis idéalement les personnes qui viennent voir le film.
Il y a des projets ?
Là, je viens de finir un épisode du Capitaine Marlowe. Et justement, on était en Touraine, donc j'en ai profité pour aller visiter quelques vins.
Réalisé par José Dayan.
José Dayan.
Qui était à votre place il y a peu de temps et qu'on salue, qui nous écoute le samedi.
C'est une grande rencontre, José. C'est un personnage, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle.
Vous avez joué dans Incognito avec Franck Dubosc, un film d'Éric Lavenne, hein, qui a réalisé Barbecue, Retour chez ma mère. Vous avez dû vous régaler à la cantine parce qu'Éric Lavenne, le réalisateur, il aime manger, c'est un fin cuisinier
il
aussi.
Il est réputé pour avoir un gros coup de fourchette.
Ouais, c'est un bon cuisinier, c'est un vrai mangeur, il aime ça. Et on aurait pu passer le temps à table, mais il fallait qu'on tourne un petit peu quand même.
Alors, pour rattraper ce temps à table, regardez qui arrive. Éric Lavenne rentre dans ce studio.
Bonjour, messieurs, dames.
Ça va, mon poulet ? Ça fait plaisir de te voir.
Je me suis permis d'amener un petit cadeau à Benabar.
Vous avez bien fait, Éric. Installez-vous.
C'est un moment unique. Je pense que vous allez pouvoir vraiment le
prendre. Une bouteille d'eau.
C'est quelque chose.
Il lui a offert une bouteille d'eau. Voilà, ça veut dire que c'est si rare que ça.
Il y a aussi la bouteille d'un de mes amis.
Merci.
Ah, vous n'êtes pas venu les mains vides, dis donc.
Je suis pas venu les mains vides, mais ce qui est incroyable, c'est
approchez-vous du micro, Éric Lavenne.
C'est de voir que, à la même table, vous avez pas Olivier Pouls et Benabar. Voilà. C'est-à-dire que donc, la cave d'Europe 1, c'est terminé.
elle est vidée, exactement. Effectivement, vous vous connaissez bien, c'est pour ça qu'on voulait faire la surprise à Benabar.
Ça fait plaisir.
Vous passez du temps à table de temps en temps. Quel genre de mangeur est Benabar, alors, Éric Lavenne ?
Ben, c'est un vrai mangeur et c'est un cuisinier. Donc, ses spécialités, il a le coq au vin. Il m'a fait un grand coq au vin. Il n'avait plus de volaille, donc on s'est contenté de...
Du vin.
Du vin, c'est de l'écureuil.
C'est le baba au rhum, c'est la technique Joe Edstar. Hein, s'il n'y a pas de baba, on se débrouille. L'été, il vous a parlé de sa maison dans le Midi. Donc, il fait un loup au pastis extraordinaire.
Il faut qu'il y ait de l'alcool.
Ouais, la dernière fois, il n'avait plus de poisson. Donc, il a remplacé le loup par des glaçons. Enfin, c'est l'école Renault. Hein.
Vous sortez le 2 juin, Éric Lavenne, un tour chez ma fille avec Balasco et Mathilde Seigné. On aimerait vous revoir diriger aussi Benabar prochainement.
Mais c'est possible. Moi, je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Mmh. Et c'est vrai que c'est toujours le bonheur. Je garde un souvenir vraiment super d'Incognito, ce qu'on a pu faire ensemble. Ça a été des grands moments. Et puis, comme en plus, le film a eu un certain succès et il perdure. C'est vraiment ce qui est génial avec le cinéma, c'est que ça continue. Quand on a la chance de faire quelque chose qui plaît, et c'est toujours des très très bons souvenirs.
Il y a une tendresse sur ce film, le public m'en parle souvent, il y a plein de gens qui m'en parlent, des jeunes notamment, qui me parlent du film, et puis en plus évidemment avec la disparition de Jocelyn, donc il y a quelque chose de très affectif qui nous a vachement rapprochés, Eric et moi, puis l'équipe du film.
Jocelyn Quivrin qui jouait dans ce film, à qui vous avez dédié une belle chanson aussi à Jocelyn, Les Mirabelles.
Oui. Bah oui, voilà, ça a été très bouleversant pour nous tous. Et puis c'est vrai que ça, je dirais même pas que ça entache la postérité du film, parce que ça rajoute quelque chose de profond dans ce film-là. Il y a beaucoup d'émotions quand on en parle.
Eh ben merci Éric Lavenne pour ce beau cadeau. Restez avec nous.
Je reste là.
Jusqu'à la fin, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Benabar.
Oui.
Alors on a plein de questions pour vous. Quel est le goût de votre enfance, Bruno?
Ah bah la pasta chaude de ma grand-mère.
Des pâtes avec, alors il y a du bœuf hein, dedans.
Ouais, il y a du bœuf. Bah elle mettait un peu
tomate,
un peu tout ce qu'il y avait. Il y avait jamais de basilic à l'époque d'ailleurs. Elle en mettait pas.
Oui, c'est vrai.
C'était du persil. Elle mettait ce qu'il y avait. Et puis ça mijotait longuement. Mais il y avait quelque chose dans la sauce qu'on n'a jamais vraiment retrouvé d'ailleurs qu'elle faisait. Ouais,
le premier plat que vous avez cuisiné.
Une quiche Lorraine, je faisais ça pas mal, parce que ça permet de la faire avant, ça passe tout seul quand on est étudiant.
C'est vrai.
Avec une vraie pâte.
Oui, une vraie pâte brisée.
Non, à l'époque c'était une fausse pâte. Maintenant je suis devenu snob, maintenant je fais la pâte.
C'est pas snob, c'est que t'as un palais maintenant.
Votre plus beau repas.
Mon plus beau repas...
C'est très gênant parce que je suis là, Bruno.
Oui, c'est ça. J'ai bien mangé chez toi, d'ailleurs, à plusieurs reprises. J'ai un souvenir ému des pizzettes dans les rues de Naples.
Ah oui,
et vraiment dans la Mecque des pizzas.
C'est là où est née la pizza à Naples, absolument.
Et puis là dans la rue, je sais pas si vous voyez ces toutes petites pizzas où il y a juste un peu de sauce tomate et un peu de fromage à peine.
La basique.
Et qui se mange comme ça dans la rue avec tous les mecs qui circulent en scoot, c'est magique.
Votre pire repas.
Chez Éric Lavenne.
voilà, c'est chez Éric Lavenne.
Tiens, bien fait.
Bah les pires repas, c'est comme nous tous, c'est quand on se retrouve en fait dans un restaurant branchouille qui se la raconte et qui font des ronds de jambes en fait pour donner une tomate mozzarella qui est très moyenne et très chère.
Quoi. Oui,
et
ça,
c'est... avec la musique à fond.
Oui, oui c'est ça. Oui.
Et le dressage à la pince épilée, vous n'êtes pas très dressage à la pince épilée.
Hein. Du tout. Et le célèbre, d'ailleurs, on l'a mis dans Beaux-Parents, Bel Appétit.
Oui, c'est ça. Ça vous agace dans le film.
Ça me donne envie de tuer, Bel Appétit.
Belle dégustation.
Oui, belle dégustation.
Bonne continuation.
Quel plat
beau voyage culinaire j'ai eu à un moment. Vous êtes un beau voyage culinaire. J'ai eu. Ouais.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer, Benabar.
Tête de veau.
Ah.
Et d'ailleurs, à ce sujet, avec mon ami à qui j'ai écrit des chansons, Pierre-Yves Lebert, devait m'emmener avant le confinement, donc ça a été repoussé. Il y en a une au Péreux, je crois, qui fait ça tous les mardis. Et donc on a ce rendez-vous qui est repoussé pour goûter la tête de veau.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Les amis, moi j'aime bien les repas de copains. Les repas de copains où on refait le monde, on s'engueule en parlant politique, on a tous des théories.
Bien sûr,
parfaitement
faut
fumées.
Que ça vive.
J'aime bien ça.
Et le mot de la fin, F-A-I-M?
Le mot de la fin, à table.
Eh ben voilà, nous y sommes. Merci Benabar
c'est
d'être
moi qui
venu.
Vous remercie, c'était un plaisir. Merci pour tout.
Et encore bravo pour ce bel album Indocile, heureux. Écoutez-le en boucle, il fait du bien. Merci Éric Lavenne.
Merci
pour cette belle bouteille d'eau. Merci infiniment.
Le
2 juin. Un tour chez ma fille. Voilà. Merci à mon équipe Lucie Lescourou, Julien Amat, Alice Foss, Marion Sauveur de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci Jérémy Hébert à la réalisation. Merci beaucoup Olivier Pouls, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Bien sûr.
Charlotte,
salut,
bon week-end, faites le marché hein, et la cuisine, même confiné, on peut faire le marché. Dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1.